chapitre 58. Le 23 août 2016, 12h. Kassanou Idrissi refusa la main que sa femme lui tendait pour l'aider à sortir de l'ambulance. Confia un billet de 20 euros à Giovanni, le chauffeur, avant qu'il ne reparte, et repoussa avec plus d'agacement encore la canne qu'elle avançait vers lui. « C'est bon, Lisa, j'ai encore deux jambes. » Il gravit la marche pour entrer dans la bergerie et observa la table dressée, les couverts, les assiettes, les verres, disposés pour quatre. À ce moment-là seulement, il se retourna et aperçut Clotilde, debout, dans un coin de la pièce.
« Nous avons une invitée, »
fit doucement Lisabetta. Speranza se tenait déjà derrière les fourneaux. Rien d'autre ne semblait avoir d'importance que la cuisson du plat. Avait-elle déjà oublié tout le reste? La nuit de la Sainte-Rose, la mort de sa fille, les derniers mots que la sorcière avait crachés à Clotilde.
« Elle s'est sauvée, ma petite chérie. Elle a égorgé Pacha et elle s'est sauvée. »
Non. Clotilde ne parvenait pas à l'admettre. Sa mère aurait attendu 27 ans, seule, au milieu du maquis, pour se sauver précisément le jour où sa fille venait à sa rencontre, à l'heure précise où sa fille montait vers son refuge, après lui avoir envoyé des courriers d'invitation explicites. Ça ne tenait pas debout.
« Une invitée !» plaisanta Kassanou. « Quelle affaire !» Quand les enfants étaient là, quand les amis et les cousins passaient, restaient, quand la famille voulait encore dire quelque chose, jamais je n'ai connu cette table avec moins de 10 personnes autour.
Elisa se tordait les doigts.
Elle s'est sauvée.
Kassanou la regarda étrangement sans rien ajouter.
Elle s'est sauvée,
répéta Speranza.
Elle a tué Pacha et elle s'est sauvée. Et Orsou est en prison,
coupa le vieux Corse.
Je suis au courant. Giovanni m'a tout raconté en route. La police prétend qu'il a assassiné Cervone.
Il vida le verre de Clos Colombo, cul sec, posa son couteau entre son assiette et son rang de serviettes sur la table. Au moment où Kassanou allait tirer sa chaise, donnant l'impression que ses informations ne le touchaient pas ou que tous ses ordres étaient déjà donnés, Clotilde retint son grand-père par la manche et explosa.
« Orsou ne risque rien. C'est moi qui le défends. Je suis son avocate. Orsou est innocent. »
Kassanou reposa son verre.
« Innocent, »
répéta-t-il avec un début de sourire qu'il éteignit en passant la serviette sur ses lèvres. « C'est ça, prends-moi pour une gamine. Alors désolé pour ton petit cœur, papé. Désolé pour tes fourneaux, mamie. Je vais mettre les pieds dans le plat. »«
Innocent, »
répéta Clotilde en haussant la voix. « Orsou serait incapable de faire du mal à une fourmi.
Je le sais, et pas parce qu'il est mon frère. »
Elle prit le temps d'évaluer l'effet de la bombe qu'elle venait de jeter.
« Je le sais parce qu'il a été le seul à aimer ma mère. Il a été le seul à l'aider pendant toutes ces années. »
« Une bombe pétrifiante, » pensa Clotilde. Six mains s'étaient figées, corps momifié, rides creusées. Seules les lentilles, le thym et le laurier bouillonnaient dans la marmite, abandonnées par une sorcière qu'un sortilège inconnu avait statufiée.
« Je veux la vérité, papé. Je t'en supplie, dis-moi ce qui s'est passé. »
Kassanou Idrissi hésita un long moment. Fixa Speranza, Lisabetta, la marmite, la bouteille de vin, le pain, les quatre assiettes, le couteau, puis enfin repoussa sa chaise.
« Viens, suis-moi. »
Cette fois, Kassanou avait pris soin d'emporter sa canne. Ils sortirent dans la cour et se dirigèrent vers un sentier bordé de sureaux noirs qui grimpait derrière la grange. En passant devant la fenêtre de la cuisine, ils entendirent un carillon de vaisselle qu'on déplace. Le vieux Corse se retourna vers sa petite fille.
Quatre assiettes. Ce n'est que le début de la fin. Et il faudra bien que ces deux vieilles folles s'habituent à manger en tête à tête. Je ne serai plus là bien longtemps. C'est ainsi, c'est le destin des femmes. S'occuper d'hommes qui partent, les accompagner, les attendre, leur rendre visite. Choisir une maison près d'une école quand elles sont jeunes, près d'un cimetière quand elles sont vieilles. Clotilde se contenta de sourire. Un instant, elle hésita à prendre le bras de son grand-père, mais Cassanou désigna le sentier devant eux.
« Je te rassure, on ne va pas monter au Capo d'Iaveta, même si le docteur Pinero est un crétin. Mes jambes continueront de marcher même quand mon cœur se sera arrêté. Je vais tout expliquer, Clotilde, et te montrer la Corse tout en parlant. Son histoire, ça t'aidera à comprendre la nôtre. Viens, et dis-moi ce que tes deux folles t'ont raconté. »
Ils avancèrent sur un chemin étroit. Clotilde lui répéta ce qu'elle venait d'apprendre, la maîtresse et l'enfant cachés de son père, Salomé, le soir du 23 août, qui prend la place de sa mère, l'accident, les doutes d'Elisabetta sur les dernières paroles prononcées par Palma. Cassanou acquiesça.
Elisabetta n'a jamais été d'accord avec moi. Elle avait, disons, des convictions différentes. Mais elle n'a rien dit. Lisa est une épouse loyale. Elle a respecté notre choix.
Le choix des hommes?
Si tu veux, Clotilde. Mais Speranza aussi était de notre côté.
Que s'est-il passé, papé? Que s'est-il passé après l'accident? La canne du vieux Corse frappait la terre comme pour en tester la solidité. Cassanou parlait aussi doucement qu'il marchait.
Tout a été très vite ce soir-là. Nous avons appris l'accident un peu après 9 heures du soir. C'est Cesareo Garcia qui m'a appelé. Il était sur place. Il m'a décrit la scène. La voiture dans le ravin de la Petracoda. L'absence de survivants, à part toi. Pour le reste, on ne savait rien. Un accident, un attentat, une vendetta. J'avais quelques ennemis à l'époque.
Un bref sourire énigmatique traversa son visage.
Sur le moment, j'ai envisagé toutes les hypothèses, mais ma première décision fut d'intercepter ta mère. Elle s'était enfuie à pied de la bergerie d'Arcanou. Les derniers mots qu'elle avait criés sous le chêne résonnaient encore dans ma tête. « Vas-y avec elle, mais surtout ne fais pas monter les enfants dans la voiture !» Comme une menace, comme si elle savait ce qui allait se passer.
Clotilde ne commenta pas. Elle se tourna et baissa son regard vers la pointe de la Révélata, quelques centaines de mètres plus bas. À cette distance, la péninsule boisée, bordée de plages miniatures, de rares villas dispersées et de petits chemins blancs, pouvait passer pour un refuge paradisiaque. Quelle illusion! Une presqu'île, c'est un cul-de-sac. Cassanou avait suivi la direction de ses yeux.
Il n'était pas difficile de deviner où ta mère se rendait. J'ai envoyé 2 hommes, Miguel et Simeone. Ils l'ont coincé près du phare de la Révélata, juste au-dessus de la maison de Natal et Angeli, une centaine de mètres avant qu'elle ne rejoigne son amant.
Le fantôme, pensa Clotilde. Le fantôme que Natal avait vu ce soir-là, ce spectre qu'il avait poursuivi toute sa vie. La vérité était si simple pourtant, si évidente. Natale n'avait pas rêvé. C'est Palma qui lui avait souri, sur les hauteurs de la Punta Rossa, avant que les hommes de Cassanou ne l'arrêtent. C'est Palma qui venait le rejoindre, sans doute pour se donner à lui ce soir-là, ou pour simplement pleurer dans ses bras. Qui pourrait savoir? Personne, pas même eux. Ils continuaient de progresser dans un étroit sentier qui sentait la lavande. Sur leur droite, ils passèrent devant un rocher criblé de balles. Cassanou avait choisi avec précision son trajet. Clotilde se souvenait qu'on l'appelait le rocher des fédérés, parce que des résistants corses avaient ici été exécutés en septembre 1943, quelques semaines avant que la Corse ne soit libérée. Cassanou se contenta de passer ses doigts dans les impacts de balles, tout en poursuivant son récit.
« Ta mère courait rejoindre son amant. Tu comprends, Clotilde ?» Ça éclairait d'une toute autre lumière le film qui précédait l'accident. Devant nous tous, dans la cour d'Arcanon, devant Salomé, ta mère avait joué la victime offensée, avait récité sa tirade de femme humiliée. Pendant toutes les vacances, elle s'était montrée obsédée par la Sainte Rose. ce fameux repas d'anniversaire avec ton père à la Casa di Stella, alors que tout n'était que mise en scène. Ta mère n'avait qu'une envie, rejoindre Natale et Angeli. Dire qu'à l'époque, ma chérie, j'ai failli t'écouter. Tu m'avais convaincue, là-haut, je lui aurais filé un bout de terrain pour ses dauphins. Ma pauvre, toi aussi, tu n'étais qu'un pion. Ces deux-là étaient complices, même si je n'ai jamais eu de preuves pour Angeli. Était-il au courant du plan de sa maîtresse? Avait-il participé à l'assassinat de mon fils? Aurait-il pu l'empêcher? Dans le doute, oui, certainement, je l'aurais fait exécuter. J'ai commencé par le menacer, pour obtenir des aveux, des certitudes. Peut-être l'ai-je trop effrayé. Ce lâche s'est marié avec Aurelia, la fille de Cesareo, le sergent Garcia. Le sergent Garcia fermait les yeux sur beaucoup de choses dans ce coin de l'île, mais il ne les aurait pas fermés sur l'assassinat de son gendre. Avec le temps, je ne vais pas te dire que j'ai pardonné à Natale et Angeli. Oh non! Mais j'en suis venu à penser qu'il avait été manipulé lui aussi, que cet alcoolique, derrière sa belle gueule, n'avait pas les couilles d'un assassin, pas même d'un complice.
Clotilde tira son grand-père par le bras. « Complice de quoi ?» Cassanou ne répondit pas et continua de marcher. À chaque mètre gravi, le chemin s'ouvrait plein est sur la limite entre le maquis et les villas calvaises qui le grignotaient, flanquées de leurs piscines et de leurs balcons sur la Méditerranée.
La Fuego fut expertisée dès le lendemain et l'avis officiel fut délivré en fin de journée. Un accident. Affaire classée. Corps rendus aux familles. On pouvait les enterrer et oublier. Les autorités respiraient. S'il s'était agi d'un meurtre, d'un règlement de compte, c'était la guerre des clans assurée en Balagne. Les Idrissi contre les Pinelli, les Casasoprana, les Poggioli. La thèse officielle, la sortie de route accidentelle, la fatigue, la vitesse, l'alcool, le destin. Arrangeait tout le monde. Mais Aldo Navarri, l'expert mécanicien de Calvi, est un vieil ami. Mon père et son père ont libéré la Corse ensemble. Avant même d'en parler aux flics, c'est à moi qu'il a révélé ses conclusions. La voiture de mon fils avait été sabotée. L'écrou de la rotule de direction dévissé. Pour Aldo, ce n'était pas une hypothèse, c'était une certitude. La biellette était intacte, sans la moindre torsion. Preuve qu'elle avait cédé avant la sortie de route, d'un coup et pas après le choc. Je lui ai demandé de se taire, de dire aux flics ce que tout le monde voulait entendre, qu'il n'y avait aucune anomalie. Aldo n'a pas hésité à fournir un faux rapport à la police. Il jouait à l'expert pour les flics moins de 3 fois par an. Et il était bien d'accord avec moi. Certaines histoires de famille ne les concernaient pas.
Il évita de se tourner vers Clotilde, se contentant de survoler des yeux les villages accrochés à la Balagne. Monte Maggiore, Moncale, Calenzana.
Cesareo Garcia a mis des mois à arriver à la même conclusion que moi. Il a demandé une contre-expertise à un de ses amis. Trop tard, bien trop tard.
Clotilde le fixait. Horrifié, espérant ne pas avoir deviné ce que son grand-père allait lui avouer. Vous avez engagé votre propre police? Exécuté votre propre justice?
Ma propre justice? De quelle autre justice veux-tu parler? Celle rendue par des fonctionnaires bureaucrates du continent? Par des jurés tirés au sort qui ne sont pas concernés, à qui on rappelle en boucle la présomption d'innocence? Malgré les évidences? Faute de preuves? La relaxe? Tu es avocate, ma chérie. Tu vois ce dont on parle. J'ai profité suffisamment de fois de ce jeu de grand guignol pour le savoir. Non, Clotilde, je n'ai jamais eu confiance dans cette justice-là. Jamais eu confiance dans cette loi. Dans ce droit-là. Ni dans celui de l'urbanisme. Ni dans celui du commerce. Et encore moins dans le droit pénal.
Clotilde titubait, Face à elle s'ouvrait l'arrondi quasi parfait du golfe de Calvi. « Alors, tu as rendu la justice toi-même ?»«
Ta mère a eu droit à un procès, aussi équitable que s'il avait été organisé par la justice française. »
Clotilde ironisa. « Ma mère avait un avocat pour la défendre ?» Cassano la toisa. Il n'y avait pas la moindre pointe de cynisme dans sa voix.
« Je suis désolée, Clotilde, mais je n'ai jamais compris à quoi servait un avocat. Je ne parle pas pour toi, rassure-toi. Tu t'occupes des divorces, de la garde des enfants, des pensions alimentaires. C'est bien, c'est l'époque qui veut ça. Il n'y a pas de bon ou de méchant, et il faut bien un arbitre pour régler ces histoires-là. Mais je te parle d'un crime. À quoi sert un avocat dans ce cas ? Il y a une enquête, il y a des indices, des preuves, un dossier. On mesure de quel côté penche la vérité, et en fonction des faits, on punit ou non. À quoi sert un avocat sinon à faire pencher les preuves objectives du mauvais côté ? Pourquoi les coupables auraient-ils besoin d'avocats ?
Et les innocents ? Cassano, cette fois, laissa s'envoler un grand rire gras.
Les innocents ? Je connais la justice de ce pays, ma chérie. Un innocent est un coupable qui a un bon avocat.
Clotilde serrait les poings et laissa ses pensées bouillir sous son crâne. Tu as de la chance, papé. Tu as de la chance que je veuille savoir jusqu'où tu as poussé la folie. Parce que j'en aurai des choses à dire sur ta conception de la justice. Et je te parlerai aussi de ton petit-fils, qui croupit en ce moment même en prison, et pour qui tu seras le premier à payer le plus réputé des avocats. Si tu n'as pas confiance en moi. Vas-y, papé, raconte-moi ce procès équitable. Cassano fixa l'arbre devant eux et s'arrêta. Clotilde se souvenait de la vieille légende. C'est ici que le condottiere San Piero Corso aurait fait pendre les membres de sa belle famille qu'il avait trahis et vendus aux Génois. Avec sa femme Vanina, il avait été plus clément et s'était contenté de l'étrangler de ses propres mains.
J'ai réuni des amis, des gens de la région, pour constituer le jury d'Arcano. Des gens fiables, des gens qui ont le sens de l'honneur, du clan, de la famille. Une dizaine au total.
Basile Spinello en faisait partie ?
Oui.
Qui d'autre ? Les cousins ? Les témoins de l'apparition de Salomé le soir de la Sainte-Rose ? Cassano ne répondit pas. Pas à cette question-là, du moins.
Je sais ce que tu penses, Clotilde. Tu es persuadée que ta mère était condamnée d'avance. Mais tu te trompes. Je souhaitais un véritable procès. Je souhaitais qu'on mette sous le nez des jurés, des preuves, qu'ils décident en toute connaissance de cause. Qu'ils se prononcent en fonction des faits, uniquement des faits. C'était le procès du meurtre de mon fils, de mon petit-fils. Je ne cherchais pas un coupable, Clotilde. Je cherchais leur assassin.
Et tu as trouvé Palma, ma mère, s'allongeant sous notre voiture pour dévisser un écrou qui devait être serré à bloc? Tu as trouvé 10 jurés pour croire ça?
Ta mère était architecte, Clotilde, un métier d'homme. Elle s'y connaissait en mécanique. Et surtout, j'ai creusé toutes les autres pistes. Les Casasoprana, les Pinelli et les autres clans m'ont assuré qu'ils n'y étaient pour rien, sur leur honneur, et je les ai crus. En Corse, on ne règle pas les querelles de famille en sabotant une voiture et en tuant des enfants. On abat son ennemi à bout portant. Réfléchis bien, ma petite fille. Il n'y a qu'une certitude dans le dossier. Quelqu'un a saboté la direction de la voiture de ton père. Quelqu'un qui savait que la Fuego pouvait rater n'importe quel virage. Alors, puisqu'il s'agit d'un crime prémédité, tout se résume à deux questions. Qui possédait un mobile pour tuer ton père et qui pouvait savoir qu'il monterait dans la voiture? La réponse est simple, ma chérie, évidente, même s'il ne te fait pas plaisir. Une seule personne, ta mère. Ta mère qui a refusé de s'asseoir dans la Fuego ce soir-là. Ta mère qui a poussé sa rivale à s'y installer, à côté de l'homme qui ne l'aimait plus. l'homme qui allait la quitter, l'homme qui allait lui prendre ses enfants. Car jamais il ne serait resté en Corse avec Salomé et Orsou sans Nicolas et toi. L'homme qui, s'il demandait le divorce, lui faisait tout perdre, y compris la fortune des Idrissi dont il hériterait un jour. Alors que s'il disparaissait dans un accident, alors qu'ils étaient encore mariés...
Cassanou, tout en continuant de parler, éleva son regard jusqu'aux plus hautes branches de l'arbre au pendu de Saint-Pierre au Corseau.
Ce soir-là, ta mère a ordonné à ton père de ne pas vous faire monter dans la voiture, ni toi, ni Nicolas. Elle a insisté deux fois, puis elle est partie.
Ils continuèrent de marcher, s'autorisant quelques secondes de silence pour franchir un bloc de rocher. Ils progressèrent sous le soleil pendant une trentaine de mètres, avant de rejoindre à nouveau l'ombre du maquis. Cassanou reprenait son souffle, tout en posant avec précaution sa main sur les pierres plates et chaudes. « Et s'il avait raison ?» pensa Clotilde. Cassanou avait martelé ses arguments avec une telle sincérité. Et si les avocats ne servaient qu'à démolir avec mauvaise foi des démonstrations imparables, à faire passer les évidences pour des coïncidences, à ébranler les convictions par l'émotion? Elle plus encore que n'importe quel autre avocat.
« Je n'ai jamais eu aucun doute, » continua Cassanou, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ta mère fut la seule à décider de qui devait monter ou non dans la voiture ce soir-là. Ta mère possédait un mobile. » Plusieurs, même. L'amour, l'argent, ses enfants. Ta mère allait rejoindre son amant ce soir-là. Ta mère s'est accusée elle-même en vous protégeant, mais elle n'avait pas d'autre choix.
Il se retourna et, pour la première fois, prit la main de sa petite fille. Celle de Cassanou était ridée et légère, comme vidée de ses chairs et de son sang. Une écorce de chêne liège.
Je t'assure, Clotilde, j'ai cherché d'autres coupables possibles, d'autres explications, mais aucune n'était crédible.
Enfin, Clotilde s'exprima. La culpabilité de ma mère n'est pas davantage une piste crédible. Cassanou soupira. Il parvenait devant un champ défriché où broutaient quelques chèvres en liberté.
Et voilà, Clotilde, voilà pourquoi je ne voulais pas d'avocat. Voilà pourquoi je voulais une véritable justice. Celle de ce pays aurait raisonné comme toi. Aucune preuve, donc aucun coupable, aucune condamnation. La justice de ce pays aurait bouclé l'affaire ainsi, sur un crime impuni. L'assassin de mon fils et de mon petit-fils aurait continué à vivre tranquillement, impunément. Comment aurais-je pu accepter ça? Le jury d'Arcanou devait condamner celui contre qui le plus de preuves s'accumulaient. Et le jury d'Arcanou n'a pas hésité. Il a voté à l'unanimité. Ta mère était coupable, personne n'en a jamais douté.
Mon Dieu. Clotilde sentait son corps trembler de froid. Son sang charriait des glaçons que le soleil à son zénith entre les maigres branches de bruyère et d'arbousier faisait fondre, brûlant sa peau, glaçant ses veines. Devant eux, la prairie s'ouvrait. Cassanou s'assit un moment sur un cairn de granit. Clotilde se souvenait. Elle venait souvent ici, petite, dans la plaine de Paoli. On racontait que l'indépendantiste avait fait enterrer ici un trésor de pièces d'or, celle qu'il avait fait frapper à Corte, un peu avant la Révolution, alors que la Corse n'était plus italienne, et pas encore française. Un trésor qui servirait quand l'île deviendrait vraiment indépendante. Personne n'avait retrouvé le moindre coffre, la moindre pièce. Une légende, une rumeur. Mais des preuves, jamais.
Le jury d'Arcanou,
continua Papé,
a reconnu la culpabilité de ta mère. En d'autres temps, se décrit par Mérimée, du temps de Colomba ou de Matteo Falcone, on aurait exécuté Palma.
Sa main de liège, telle une éponge qui sèche, se raidit dans celle de Clotilde.
Il y a 27 ans, je l'aurais condamné à mort, sans aucune hésitation. Mais d'autres s'y sont opposés, Lisabetta la première. Basile également. Palma restait malgré tout un membre de notre famille, une Idrissi, la mère de notre petite fille. Et puis, c'était l'argument de Lisabetta, ta mère n'avait pas avoué. Et si, un jour, on apprenait une autre vérité? Basile a avancé un autre argument pour la sauver. Il prétendait qu'on ne pouvait pas être moins civilisé que la justice des Français, qui ne condamnait plus à mort, même les pires criminels. Alors, la sentence a été appliquée. La prison à perpétuité. Ça ne manquait pas de coin au-dessus d'Arcanou, dans le maquis, pour y enfermer quelqu'un toute une vie. D'ailleurs, ta mère n'a pas protesté. Même si elle n'a jamais avoué, elle ne s'est jamais défendue. Elle n'a jamais cherché à se sauver.
Jusqu'à aujourd'hui, pensa Clotilde. Lors de ce simulacre de procès, sa mère venait de perdre son mari, son fils, dans une voiture où elle aurait dû se trouver. Seule, traumatisée, accusée, acculée, rongée de culpabilité, quelle force lui restait-il pour se défendre? Elle avait tout perdu ce soir-là, tout perdu sauf sa fille. Clotilde allait parler, mais Cassanou fit glisser sa main pour la poser sur son épaule.
« Je ne suis pas un monstre, Clotilde. Ta mère n'a perdu que la liberté. C'est tout ce qu'elle a eu à payer. Le même prix que n'importe quel voleur, n'importe quel violeur ou assassin. Mais pour le reste, elle n'a pas été maltraitée. Au contraire, elle a été bien mieux que tous ces détenus qui s'entassent à la prison de Borgo. Je peux t'affirmer que les repas préparés pour elle par Elisabetta étaient meilleurs que ceux de la cantine d'un centre de détention. Que son geôlier, Orsou, était plus respectueux que les matons de la prison. Que son chien, Pacha, était plus affectueux que les bergers allemands dressés pour tuer. Nous ne sommes pas des monstres, Clotilde. Nous ne voulions que rendre la justice.
Clotilde se recula d'un pas. Et maintenant? Maintenant qu'elle s'est enfuie, qu'est-ce que tu vas gagner? Elle va courir chez les flics vous dénoncer. Cassanou sourit en secouant la tête.
Si elle l'avait fait, la police serait déjà là. Non, ma chérie. Ta mère n'a pas couru à la gendarmerie pour raconter son histoire invraisemblable, séquestrée pendant des années dans une cabane de berger. Elle n'est pas allée nous dénoncer, et pourtant, c'est ce qu'aurait fait n'importe quel otage. Tu es d'accord? Une preuve de plus, Clotilde. Une preuve de plus de sa culpabilité.
Ses yeux zigzaguèrent cherchant à capturer ceux de sa petite fille.
On va la chercher. On va la retrouver. Tu pourras lui parler. Un Corse peut disparaître des années dans le maquis, mais pas une étrangère. Pas une étrangère qui n'a pas mis un pied dehors depuis 27 ans.